Hervé Borgels, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de DBT. Vous venez donc sur Alternex Paris à l'occasion d'une introduction en bourse. On va parler avec vous de recharge électrique. C'est vrai qu'avec la COP21, on est en plein dans ce sujet. Vous fournissez ces bornes. Votre métier historique, c'était celui de distributeur avant d'être sur cette technologie-là?
Non, pas du tout. Moi, j'ai créé ma société en 1990. Notre activité de base, c'était la fabrication de transformateurs, donc pour EDF. Et pratiquement tout de suite, dès 92, on a pu équiper la ville de La Rochelle déjà avec des bornes de recharge de voitures électriques, bornes qui existent toujours, et la borne de Paris, les bornes de Paris dès 94, des bornes qui aussi existent toujours. Donc ça a fait de nous, au moment du Grenelle de l'environnement en 2008, la société qui avait le plus d'expérience et déjà un parc installé extrêmement important, parce qu'on avait déjà 5000 bornes en 2008. Après, je fais une première levée de fonds avec Turenne Capital et Ener Capital Partner. Nous passons des accords industriels avec Nissan en 2012. Et là, je pense que c'est une partie d'histoire qu'on va continuer à raconter.
Justement, quand on parle de bornes électriques, entre les débuts de ces bornes, est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a des normes, selon les véhicules, aujourd'hui, il y a plusieurs univers. Quand on parle de bornes électriques, ce n'est pas un univers tout simple?
Pour faire simple, il y a trois univers. Il y a l'univers japonais, donc avec Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan et Subaru. Vous avez le monde allemand avec BMW, Volkswagen, et donc Porsche et Audi et Daimler maintenant qui ont fait parler d'eux récemment. Et vous avez une norme française qui est ZE Ready, donc pour les Renault, mais aussi pour des Tesla et aussi pour les Chinois de BYD. Donc tous les grands constructeurs sont présents. Donc c'est la caractéristique d'un marché mondial. Des enjeux extrêmement importants parce que BMW a investi énormément d'argent. Nissan a annoncé qu'ils avaient investi depuis quelques années plus de 5 milliards de dollars. Et récemment, c'est Daimler et Porsche qui ont annoncé chacun 1 milliard. Donc on est quand même sur des volumes d'investissement extrêmement importants. Et la particularité de ce marché, c'est que pour que les voitures électriques puissent marcher et se recharger, il faut des bornes. Et ça a été la stratégie des Japonais qui sont en train d'être développée par Tesla. Actuellement, c'est mettre des bornes pour vendre les voitures.
Oui, c'est presque un renversement, on pourrait dire, de stratégique. En disant, mais d'abord, mettons les bornes et on vendra beaucoup plus facilement les voitures pour les clients.
Exactement, parce que dès qu'on a un interview ou des articles sur la voiture électrique, ça se termine systématiquement par « il n'y a pas assez de bornes ». Il se trouve que je suis extrêmement d'accord avec cette conclusion.
Justement, quand la technologie qu'il y a derrière, puisque vous parliez de La Rochelle, ce qu'il y avait au début et ce qu'il y a aujourd'hui, quand il faut qu'on puisse brancher trois types effectivement de prises, ça veut dire quoi derrière? Il y a des logiciels, qu'est-ce que vous avez développé vous justement?
Nous, grâce au partenariat qu'on a établi avec Nissan dès 2012, on a eu une borne aux normes CHAdeMO qui était extrêmement performante puisque designée par Nissan pour les voitures Nissan, mais avec l'assentiment des quatre autres constructeurs. Donc à l'époque, 35% de la production de voitures du monde. Et Nissan maintenant est premier producteur de voitures électriques du monde, quatrième producteur de voitures donc classiques. Donc de grandes ambitions et on a pu acquérir une technologie très rapidement grâce à un certain nombre de transferts de technologie, de transferts savoir-faire de la part de Nissan qui nous a autorisé à rajouter le module allemand, donc le module combo, et de rajouter le module AC puisque le principe de charge Renault ZE Ready est un principe de charge à courant alternatif quand les deux autres modes de charge sont du courant continu. Donc dès janvier 2013, et on a été les premiers en Europe à faire ça, on a sorti un chargeur multistandard, j'allais dire européen, parce qu'il rechargeait donc pratiquement toutes les voitures du marché. On a été les premiers à le faire devant des grosses sociétés que je ne nommerai pas, mais qui sont aussi un signe de pérennité du marché, parce qu'à partir du moment où vous avez des gros investissements et des gros acteurs, c'est qu'il y a vraiment un marché et donc du business à faire.
Pour vous justement, quel est le business model derrière ces installations? Donc on espère qu'ils vont se multiplier effectivement pour les producteurs de véhicules électriques. C'est quoi le business model pour vous, le vôtre?
Le nôtre, c'est être toujours à la pointe du combat, donc ce qui justifie cette introduction en bourse, c'est pour avoir les moyens de continuer à avoir les meilleurs produits disponibles, plus tout ce qui est force commerciale et force de SAV, parce que c'est vrai que sur la charge rapide, c'est quand même un outil extrêmement performant, mais un outil techniquement extrêmement élaboré. Donc, il a fallu mettre au point des systèmes de télégestion, de téléchargement de différentes versions de logiciels, parce que c'est vrai que dans les voitures, dans les normes, tout ça, ça évolue et il faut pouvoir les télécharger. Et on oublie souvent que la destination de ces bornes, et surtout les bornes rapides, c'est pas la voiture, c'est l'utilisateur. Donc, il y a une interface utilisateur qu'il a fallu créer de toutes pièces. Comme on exporte dans 33 pays, on l'a fait en 27 langues. Et il faut que ce soit le plus simple possible d'utilisation sur un produit qui, je le répète, est quand même techniquement extrêmement élaboré.
Vous diriez aujourd'hui qu'il y a encore des freins, parce que quand on a un véhicule électrique, on cherche une carte où on trouverait ces bornes rapides, on n'est même pas sûr en partant que finalement ça va fonctionner, est-ce qu'on peut y aller avec sa carte bleue, avec une carte spéciale. Il y a encore beaucoup de blocages finalement.
Alors, c'est pas des blocages en fait, c'est qu'il y a des expériences en parallèle. Nous, on a suivi des expériences qu'on a pu faire avec Nissan, avec donc le groupe Auchan, le Cora, BP. Et après, vous avez des expériences donc avec Sodetra et l'EDF qui ont leur mode d'accès. Pour l'instant, c'est pas encore du paiement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous avez un lecteur RFID dans la borne, après c'est du logiciel qu'on met derrière, mais c'est disponible avec une carte bleue sans contact ou une carte Visa sans contact, donc qui commence à devenir assez répandu, qui justement permet des paiements jusqu'à 12-15 euros, c'est exactement la cible, donc c'est deux fois le prix d'une charge rapide, et vous avez des modes d'utilisation qui sont légèrement différents, parce qu'en France pratiquement tout est gratuit aujourd'hui, mais si je prends l'Angleterre qui est le premier pays d'implantation avec 480 bornes aujourd'hui, un projet d'autoroute électrique avec un maillage tous les 30 km qui marche très bien, là c'est des services paiement et il y a un business model de l'exploitant qui existe. Et il y a 4 ou 5 exploitants, donc EcoTricity, ChargeMaster, Electromotive, ChargePoint Service, qui sont tous des clients de DBT d'ailleurs, et qui eux sont dans un mode de concurrence et de paiement de services et services à valeur ajoutée. En France, c'est un peu différent, mais je pense qu'on y viendra aussi. Avec une harmonisation, on sent quand même que ça bouge, parce que nous, par exemple, au moment du COP21, on a pu installer, grâce à Nissan, Renault et ERDS au Détrail, 41 bornes de charge rapide, ce qui est tout autour de Paris, sur les grands axes. Donc, je pense qu'il en faudra encore plus, mais c'est déjà un bon début et ce n'est pas deux bornes dans la nature.
Le mot de la fin après cette introduction en bourse, donc il y a cette levée de fonds, vous parlez d'un potentiel de croissance important compte tenu effectivement de ces installations à venir. La rentabilité pour l'entreprise, est-ce qu'il y a des horizons, en fait, un horizon là-dessus?
C'est vrai que les dernières années nous ont obligés à investir beaucoup. La levée de fonds va nous permettre un confort financier supérieur. Et donc, comme on a le plus gros parc installé en Europe, c'est-à-dire 65% de part de marché, un horizon de 10 000 bornes pour 2020, dans un marché global qui est estimé à peu près 1 milliard de dollars. C'est important, ça va permettre de faire d'énormes économies d'échelle sur les produits. Un autre élément qui est important, c'est qu'avec les nouvelles voitures qui sortent et qui ont été annoncées dans différents salons à Francfort ou à Tokyo, tous les constructeurs ont dit que les voitures allaient avoir besoin de plus de puissance embarquée. Qui dit plus de puissance embarquée dit forcément de la charge rapide, c'est pas moi, je ne suis pas le seul à le dire, il y a ABB qui a fait cette déclaration la semaine dernière, et donc ce qui va rendre les bornes de charge lentes et les semi-rapides complètement obsolètes extrêmement rapidement, parce qu'on parle d'un horizon à 2 ou 3 ans. Donc le fait que les volumes vont continuer à croître, vu qu'on parle d'un marché qui va croître à 36% par an, le fait qu'on va pouvoir faire du cost killing et garantir des volumes à nos fournisseurs, plus les fonds levés nous permettent d'être encore meilleurs en R&D et en tout ce qui est service commercial et service maintenance et après-vente. Je pense que les prix vont baisser, d'accord, mais la marge va augmenter aussi.
Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Hervé Borgholz d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie aussi.